Vous êtes bien sur Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Le défilé des drapeaux dimanche à Jérusalem-Est a réuni 70 000 Israéliens, une marche qui a donné lieu à des violences verbales et physiques. Le Croissant Rouge palestinien fait état d'au moins 79 personnes blessées à travers Jérusalem. Nous y reviendrons avec le président de la plateforme des ONG françaises pour la Palestine, François Leroux. La fin de l'état d'urgence imposé depuis le coup d'état d'octobre dernier au Soudan. La mobilisation de l'opposition se poursuit, mobilisation malgré la répression exercée par les autorités. La ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, en Ukraine ce lundi. Le premier déplacement d'un ministre français dans le pays depuis le début de la guerre, fin février. Un journaliste français a été tué ce lundi dans l'est de l'Ukraine, là où des combats ont lieu avec l'avancée des troupes russes. Face à l'inflation en France, plusieurs partis politiques et associations demandent un gel des loyers. Le logement reste le premier poste de dépense des ménages modestes, comme le soulignera l'ancien député européen, éditorialiste à l'Humanité, Patrick Le Yarrick. Le début ce lundi de la campagne officielle avant les élections législatives des 12 et 19 juin prochains en France. 6293 candidats sont en lice pour 577 sièges à l'Assemblée nationale, dont 11 réservés aux Français établis à l'étranger. L'invité de Pluriel à 19h et 23h est Elisabeth Darwish, candidate de l'Union pour le président Macron dans la 10e circonscription des Français de l'étranger, en Afrique, au Moyen-Orient et Océan Indien. Extrait de votre édition. Quelques 70 000 personnes ont défilé ce dimanche dans la vieille ville de Jérusalem. Plus de 3 000 policiers étaient déployés à l'occasion de cette journée qui marquait la prise et l'annexion de la partie orientale de la ville en juin 1967. Une marche qui a donné lieu à des violences verbales et physiques. Le Croissant Rouge palestinien fait état d'au moins 79 personnes blessées à travers Jérusalem. Plusieurs centaines d'Israéliens ont pénétré de force dans le complexe de la mosquée d'Al-Aqsa à Jérusalem-Est. Le ministère palestinien des Affaires étrangères a accusé les autorités israéliennes d'avoir organisé les incursions. Entretien avec le président de la plateforme des ONG françaises pour la Palestine, François Leroux.
C'est une provocation de plus, mais une provocation qui se déroule dans un processus qui est commencé depuis bien longtemps. Et il faut un peu rappeler brièvement l'histoire de Jérusalem, où d'abord les Palestiniens ont été expulsés de la partie ouest de la ville. Faut jamais l'oublier, parce qu'on oublie souvent Jérusalem-Ouest, expulsé en 48. Puis il y a eu l'occupation en 67, et aussitôt il y a eu cette annexion de Jérusalem-Est qui a été étendue très rapidement au détriment du reste de la Cisjordanie. Et dans cette partie de Jérusalem-Est, effectivement, il y a la vieille ville avec les lieux saints, et notamment l'esplanade des mosquées, qui est un objectif dans ce processus donc depuis 75 ans. Sur Jérusalem-Est, la vie palestinienne est entravée depuis à tous les niveaux, économique, au niveau des hôpitaux. La ville est séparée donc de son arrière-pays, la Cisjordanie. Jérusalem-Est fait partie de la Cisjordanie, et donc on le voit régulièrement. Alors il y a le mur bien connu, qu'on oublie un peu souvent, et ce mur, y compris, sépare des Palestiniens d'autres Palestiniens. Il faut savoir qu'il y a des quartiers de Jérusalem-Est qui font partie de la municipalité élargie par l'occupant, mais qui sont séparés par le mur des autres parties de Jérusalem. C'est assez incroyable, et les Palestiniens de Jérusalem deviennent en quelque sorte des étrangers dans leur propre ville, avec un statut, là aussi il faut le rappeler, un statut de résident, donc ils n'ont pas les pleins droits dans leur propre ville, ils sont considérés comme des intrus, et ce statut de résident, d'ailleurs, qui frappe notre compatriote Salah Hamouri, qui est aujourd'hui en détention administrative. Donc sur cette provocation, elle a eu feu vert des autorités israéliennes, et aujourd'hui tous les feux sont au vert pour les colons, et qui s'expriment par des manifestation de racisme, comme on a pu l'entendre ou le voir lors de cette marche des drapeaux, avec des slogans de haine anti-palestinienne, anti-arabe, largement repris. C'est une provocation qui est appuyée par le gouvernement, qui a donné son autorisation. Et je rappelle que Bennett, en mars, je cite entre guillemets, a donné une liberté d'action totale à l'armée israélienne, donc suite à des actes qui avaient été commis par des Palestiniens en Israël. Donc il encourage ces exactions, ces violences, ces provocations.
Et vous faites état de ces slogans anti-arabes qui ont été prononcés ce dimanche à Jérusalem. Au moins 79 personnes ont été blessées selon le Croissant Rouge palestinien. Vous demandez aujourd'hui des condamnations internationales suite à ces faits?
Bien sûr, et là la France et l'Europe, puisque nous sommes français et européens, La France est très timide, on attend plus que ce qu'ils disent et plus que l'Europe indique. Je veux dire, le ministère des Affaires étrangères, le 15 avril, là, j'ai la déclaration, hein, appelée au respect et la préservation du statu quo historique sur les lieux saints à Jérusalem. Donc ça, c'est un rappel, donc c'est la position officielle de la France, même si elle a été un petit peu transformée par une déclaration lue par M. Castex lors du dîner de crise. Mais la position officielle, c'est celle-là, c'est la terminologie internationale utilisée par la France. On respecte le statu quo historique de l'esplanade des mosquées. Il y a une liberté d'action totale hein, qui est donnée, tous les feux sont plus verts, il n'y a plus de garde-fous, et ben les plus fanatiques des Israéliens se lâchent. Et il y a eu un feu vert récemment encore de la puissance occupante, puisque le téléphérique dit des colons vient d'être autorisé hein, et il va desservir un centre, enfin s'il est construit, un centre géré par Elad, qui est une organisation de colons extrémistes, donc un téléphérique qui passerait au-dessus de Jérusalem.
François Leroux, président de la plateforme des ONG françaises pour la Palestine. La levée de l'état d'urgence au Soudan, il était en vigueur depuis le coup d'état du 25 octobre dernier. Une décision du général Abdel Fattah al-Burhan, elle a été prise alors que le procès de 4 manifestants détenus depuis 4 mois pour la mort d'un général de police s'est ouvert dimanche à Khartoum. 7 mois après le coup d'état du général Burhan au Soudan, la mobilisation de l'opposition se poursuit, mobilisation malgré la pression exercée par les autorités. La saisie vendredi par l'Iran de 2 pétroliers battant pavillon grec dans les eaux du Golfe constitue une violation grave du droit international que la France condamne fermement. Réaction de Paris qui appelle l'Iran à libérer immédiatement les équipages et les navires. Le trafic aérien des passagers dans les aéroports tunisiens a augmenté de 182,9% durant le premier trimestre de cette année par rapport à la même période l'année dernière. C'est ce qu'indique l'Office de l'aviation civile et des aéroports. La pandémie de Covid-19 avait en effet très fortement impacté le transport aérien. La mort d'un journaliste français en Ukraine, Frédéric Leclerc-Imhoff, était en Ukraine pour montrer la réalité de la guerre à bord d'un bus humanitaire aux côtés de civils contraints de fuir pour échapper aux bombes russes. Il a été mortellement touché. Une annonce ce lundi après-midi du président de la République française, Emmanuel Macron, qui dit partager la peine de la famille, des proches et des confrères de Frédéric Leclerc-Imhoff. À celles et ceux qui assurent sur les théâtres d'opération la difficile mission d'informer, je veux redire le soutien inconditionnel de la France, selon le propos d'Emmanuel Macron. La ministre de l'Europe et des Affaires étrangères s'est rendue ce lundi à Kiev au menu de cette visite de la chef de la diplomatie française. Une rencontre avec notamment le président ukrainien. Il s'agit du premier déplacement d'un ministre français en Ukraine depuis le début de la guerre fin février. Pendant ce temps, l'armée russe progresse dans l'est de l'Ukraine. Face à l'inflation en France, plusieurs partis politiques et associations demandent un gel des loyers. Si les loyers sont déjà encadrés dans certaines grandes villes comme Paris, Lille ou Lyon, le logement reste le premier poste de dépense des ménages modestes, comme le souligne l'ancien député européen, éditorialiste à l'Humanité, Patrick Le Yarrick.
Dans le privé, c'est un système normalement qui est encadré, puisqu'il y a en général un contrat de location. Dans le public, dans les offices HLM, c'est à peu près la même chose, sauf qu'en théorie, le loyer est moins cher. Aujourd'hui, on est dans un cycle infernal, puisque on a tous les ans la hausse naturelle des loyers liée au niveau de l'inflation, mais chacun comprend bien que dès lors que les salaires ou les pensions de retraite sont bloquées, augmenter les loyers au niveau de l'inflation, c'est-à-dire 4,5 à 5%, augmente la charge pour les personnes qui sont locataires, alors que de toutes parts, les autres prix augmentent. Or, peser aujourd'hui sur le loyer, trouver le moyen de le bloquer, c'est aussi un moyen de bloquer les dépenses mensuelles ou trimestrielles des familles. Donc la demande, la revendication, elle est parfaitement justifiée. On ne peut pas continuer comme cela. D'ailleurs, c'est la même chose d'ailleurs pour les classes populaires, par exemple à propos des livrets d'épargne. Aujourd'hui, le livret A est rémunérée à moins de 1%, l'inflation est quasiment à 5%. Donc la même personne qui met de l'argent de côté, elle perd en valeur par rapport à ce qu'elle a mis, puisqu'elle n'a pas la rémunération équivalente. Bon, pour les loyers, normalement, une partie des loyers est rémunérée par l'épargne également. Donc on voit bien qu'on est aujourd'hui dans un cycle infernal et il faut par tous les moyens sortir de cela.
À titre d'exemple, pour un loyer de 700 euros par mois, une inflation de 5% représente une hausse de 35 euros par mois et 420 euros par an.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire on voit bien qu'une famille de, mettons, 4 personnes, un couple et 2 enfants, entre l'énergie aujourd'hui, entre l'alimentation, simplement l'alimentation, et en faisant attention, plus si c'est un loyer de 1500 euros à 5%, vous voyez bien que ça devient pour beaucoup de gens aujourd'hui intenable. Moi, je pense que peut-être nous sommes, de ce point de vue, au bord de la rupture.
Et vous soulignez qu'il s'agit du premier poste de dépense des ménages.
Oui, c'est le tiers, en général, le tiers de la rémunération d'un couple, elle passe aujourd'hui dans le loyer. C'est le premier poste de dépense et c'est extrêmement lourd.
Un blocage des loyers tel qu'il est demandé, cela a-t-il déjà été fait dans le passé?
Oui, il y a eu des initiatives. À Paris, Yann Brossat, sur un certain nombre de logements, pas tous, mais a promu un blocage de loyer. D'ailleurs, il y a eu un conflit avec les autorités juridiques et même avec l'État à ce propos, mais on ne peut pas laisser monter de manière exponentielle les loyers, sinon les gens, de toute façon, ne pourront pas payer. Et donc, le nombre de gens qui seront mis d'accord dehors et le nombre de gens qui seront mis en difficulté risque d'augmenter très, très sérieusement.
Avec cette difficulté parallèle, le resserrement de l'accès au crédit.
Il y aura, après la période qu'on vient de connaître où on avait des taux de crédit à quasi nuls ou très bas, entre 0 et 2%, on est aujourd'hui dans une nouvelle phase un peu complexe. Les banques centrales augmentent les taux d'intérêt, donc inévitablement, quand on ira chercher un prêt à la banque, on aura un taux d'intérêt plus élevé, le 5, 6, peut-être 7%, parce qu'il y a un taux de rémunération de la banque. Et donc l'accès au crédit et même le paiement de crédit déjà engagé, si ce n'est pas des taux fixes, vont peser lourdement sur le budget de ceux qui deviennent, par exemple, accédants à la propriété ou ceux qui prennent des crédits de consommation. Et il y en a beaucoup en ce moment, semble-t-il. Et donc, si on augmente le taux du prêt, le taux d'intérêt du prêt, évidemment, ça va peser très, très lourdement pour les accédants à la propriété qui s'engagent ou qui sont engagés ces derniers mois, même ceux, d'ailleurs, qui font des réparations dans leur logement ou qui vont acheter du matériel nécessaire pour, par exemple, pour la cuisine. Donc on est face quand même à une lourde problématique pour les familles populaires aujourd'hui et les catégories moyennes.
Et vous estimez que la question du logement doit être une priorité du gouvernement? Il y a eu quelques avancées ces dernières années, comme l'encadrement des loyers, par exemple, dans certaines métropoles.
Oui, il faut aller dans ce sens-là, il faut aller plus loin. Il faut maintenant que dans le quinquennat là, qui commence dès le mois de juillet, qu'il y ait des dispositions législatives qui soient prises rapidement pour la rémunération du travail, pour les salaires, ça c'est une question, et pour des blocages encadrés et bloquer un certain nombre de prix. C'est le cas des loyers, c'est le cas des produits de première nécessité, et c'est aussi le cas de l'énergie.
Et que répondez-vous aux détracteurs de cette mesure, aux personnes qui s'opposent au gel des loyers, ces personnes pour qui cela défavoriserait les propriétaires?
Évidemment, mais quand un propriétaire s'engage dans un programme comme celui-là, S'il a lui-même des prêts à rembourser, j'imagine que ce sont des prêts à long terme, vraisemblablement à taux fixe, je ne vois pas la raison pour laquelle il augmenterait ses loyers, sauf à faire de la rente. Donc, si ce sont des prêts à taux fixe, si de long terme, s'il n'a pas de travaux dans les logements qu'il loue, je ne vois pas ce qui justifie une augmentation des loyers aujourd'hui, bien que lui, comme les autres, a des coûts supplémentaires aujourd'hui pour sa vie personnelle. Mais le loyer, tel qu'il est conçu là, est une économie de rente.
Patrick Le Yarrick, ancien député européen, éditorialiste à l'Humanité. Le début ce lundi de la campagne officielle avant les élections législatives des 12 et 19 juin prochains en France. Cette phase de la campagne prendra fin à la veille du premier tour du scrutin. 6293 candidats sont en lice pour 577 sièges à l'Assemblée nationale, dont 11 réservés aux Français établis à l'étranger. Les affiches des candidats vont être installées dans chaque commune de France et un temps de communication audiovisuelle est accordé à chaque formation politique. L'invité de Pluriel à 19h et 23h ce lundi est Elisabeth Darwish, candidate de l'Union pour le président Macron dans la 10e circonscription des Français de l'étranger en Afrique, Moyen-Orient et Océan Indien. Elle évoque des problèmes spécifiques aux Français de sa circonscription. Extrait de cette émission.
Lorsque j'ai décidé de me lancer dans cette course et dans ce challenge, ce défi, je me suis dit, Elisabeth, tu habites à Paris, tu es avocate au barreau de Paris. Bon, de par mes relations, de par mes dossiers, je voyage dans ces pays. Je suis polyglotte, je parle 6 langues, donc ces pays, je m'adresse même parfois avec des résidents français dans la langue, dans leur langue maternelle, pour être au plus proche. Mais je me suis rendu compte qu'on était très loin de leurs attentes ces 5 dernières années. Alors j'ai créé un réseau dans les 49 pays d'un référent par pays. Et ces 49 référents m'ont fait remonter leurs doléances et leurs propositions. Et la doléance principale qui est revenue, ça a été d'abord l'éducation. Ensuite, ça a été les violences conjugales. Donc moi, j'ai mis les violences conjugales en avant parce que, je vais vous dire, en janvier dernier, j'ai eu une résidente française qui habitait dans un des pays de cette 10e circonscription qui a été abandonnée, qui a été victime de violences conjugales et rien n'a été fait pour elle. Par aucune des autorités, ni par la députée sortante.
Elisabeth Darwish, candidate de l'Union pour le président Macron dans la 10e circonscription des Français de l'étranger, invitée de Pluriel à 19h et 23h. À 19h30 et 23h30, Loïc Barrière recevra Nadera Beltrèche, candidate de la NUPS dans la 9e circonscription de l'Essonne. Rediffusion ce mardi à 7h30. Une réunion ministérielle a eu lieu ce lundi après les scènes de violence près du Stade de France, samedi à Saint-Denis. C'était en marche de la finale de la Ligue des Champions samedi soir, des violences qui ont abouti à 105 interpellations et 39 gardes à vue, selon le ministère de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur estime que ces incidents sont liés aux milliers de supporters britanniques sans billets ou avec des faux billets qui ont forcé les entrées et, dit-il, parfois violenté les stadiers. Fin de cette édition, vous êtes bien sur Radio Orient. Un très grand merci pour votre fidélité. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.